BFM, 17h23h, le grand journal, Fabrice Lundy.
Regard sur l'actu du jour et les sujets ne manquent pas avec dans ce studio. Tiens, bonsoir Marie-Noëlle Lienemann.
Bonsoir.
Marie-Noëlle Lienemann, députée européenne socialiste, auteur d'Au revoir Royal aux éditions Perrin. Elle tacle Ségolène Royal, elle a trouvé mieux devant elle Lionel Jospin qui va sortir lundi prochain à l'impasse. On y reviendra dans une demi-heure. Bonsoir Jean-Christophe Adler.
Bonsoir.
Jean-Christophe Adler, président de l'association française des conseils en lobbying. Louis Tannenberger est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Fabrice Président.
Louis Tannenberger, président d'Europe Finance Industrie, le spécialiste des marchés, des introductions en bourse. Tiens, Louis Tannenberger, c'est avec vous qu'on va démarrer. Nicolas Sarkozy qui égratigne hein, Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe, il l'accuse de faire preuve d'inertie. Il reproche également à Jean-Claude Juncker, le président de la BCE, d'avoir facilité la vie des spéculateurs. Les attaques de Nicolas Sarkozy contre l'immobilisme européen qui ont suscité de nombreuses réactions aujourd'hui des eurodéputés, de la presse allemande également. Est-ce qu'il en fait pas trop, Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'on s'isole pas trop ?
Absolument pas. Il exerce un contre-pouvoir, notamment vis-à-vis de la BCE, qui n'a absolument rien prévu, et son président encore moins, et Jean-Paul Juncker aussi, dans cette crise qui secoue le monde entier des subprimes. On va peut-être en parler tout
Bien
à
sûr,
l'heure.
Ouais.
Vous avez quand même des épargnants qui sont sur les trottoirs en Angleterre et qui ont peur pour leur argent. Et je crois que Nicolas Sarkozy exerce, je répète, un contre-pouvoir à la BCE et il veille à la sécurité peut-être tout simplement de l'épargne publique française. C'est un sujet très grave, on va peut-être en parler, reparler tout à l'heure. Ce que je n'aime pas, c'est quand les directeurs de banque, tous tels qu'ils sont, nous rassurent. À la veille de chaque crack, et dans ce studio, je l'ai prédit il y a un an, je l'ai répété il y a un mois, et Éric Le Boucher, qu'on ne peut pas, qui est éditorialiste au monde, soupçonné de partialité, dit qu'il faut nettoyer les écuries. La BCE ne l'a pas fait, et je lis dans Le Monde de ce soir qu'il y a une polémique en Allemagne autour de la surveillance du système bancaire. Le chancelier de l'Échiquier dit, se demande s'il ne faut pas placer le système bancaire à nouveau plus sous la surveillance de l'État. En Allemagne, c'est exactement la même chose et je crois que nous devons nous poser des questions. Il y a une crise mondiale et je pense qu'elle couve également en France.
Marie-Noëlle Lienemann, vous êtes eurodéputée socialiste. Est-ce que la France peut donner des leçons comme ça aux autres Européens compte tenu de nos déficits qui sont montrés du doigt aussi? C'est une réalité.
Tout le monde a des déficits.
Non, mais la question, elle n'est pas de savoir si on a le droit de parler en fonction de ses déficits. On est un grand pays politique. Et il est clair que parler c'est bien, agir c'est mieux. La faiblesse de Sarkozy, c'est d'avoir démantelé le rapport de force qu'il avait avec le non-français, d'accepter le pseudo-mini-traité qui s'appelle en fait traité de réforme, sans mettre sur la table les deux grands sujets qu'il avait vendus aux Français comme étant, si je puis dire, le contrepoint d'une avancée institutionnelle, qui était d'une part la manière de peser sur la BCE avec un gouvernement économique, en tout cas de pouvoir peser sur la BCE, et deuxièmement, la question des protections communautaires. Il a accepté, vitesse grand V, un traité qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la Constitution, et il n'a pas utilisé le nom français pour poser ces questions centrales, majeures. Et avec le recul, je m'en rappelle qu'on était traité de fou quand on s'opposait au traité d'Amsterdam en disant que c'était absurde de graver dans le marbre ces critères de convergence. C'était absurde de démanteler le pouvoir politique face à la Banque centrale.
Donc il fait bien Nicolas Sarkozy. Donc il fait bien Nicolas Sarkozy comme ça de hausser le ton.
Hausser le ton. Le problème, c'est que c'est à contre-temps. Alors bon, je préfère qu'il l'ose, mais ça va servir à rien s'il ne met pas dans la balance le fait qu'on n'est pas obligé d'accepter ce traité qui consacre une fois de plus ce qu'il dénonce aujourd'hui.
Jean-Christophe Adler, président de l'Association française des conseils en lobbying.
Oui, simplement souligner qu'effectivement, il y a une contradiction apparente entre la liberté de ton qu'on connaît au président de la République et l'approche peut-être plus feutrée qui existe en Europe et encore plus dans les banques. Il n'empêche, quelle que soit la forme qu'il a choisie, on peut et on a le devoir sans doute de poser des questions sur la gouvernance et particulièrement en temps de crise. Je crois qu'il n'y aurait rien de pire que effectivement ces banquiers qui cherchent à nous rassurer, qui par leur silence finalement nous inquiètent davantage, que de ne rien dire, à ne rien faire. Il y a des questions à poser. Il ne faut pas laisser la place aux images. D'un point de vue de communication, les images qu'on voit de gens faisant la queue devant les banques sont quand même absolument désastreuses et de sinistre mémoire. Si les hommes politiques ne s'exprimaient pas à cette occasion, alors qu'en le ferait-il ?
Louis Tannenberger, vous êtes d'accord ?
Parfaitement, 100%.
Enfin, moi, j'insiste sur le fait que ça fait un moment qu'on voit bien que l'immobilier, à la fois aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Espagne, on est bulle complètement déconnecté du réel. En France, les prix ont augmenté fort heureusement d'une certaine façon. Le fait que les taux soient plutôt des taux fixes nous rend moins vulnérables. Mais une fois que la bulle se met à se dégonfler, tout le monde va trinquer. Et donc, on aurait dû réagir avant. D'ailleurs, en France comme en Europe, et c'est souvent comme ça, on fait l'autruche et ensuite l'État est appelé au secours.
Enfin, Nicolas Sarkozy est quand même un homme très très courageux. Il dit publiquement ce que nous pensons tous. On a trop fait pour les spéculateurs, on n'a pas fait assez pour les entrepreneurs. Et donc, il veut protéger de surcroît les épargnants. Tout est juste.
Oui, enfin, sauf que là, on pourrait parler de la spéculation. Il a pris des décisions qui y sont favorables.
Eh bien, écoutez, il y a autre chose qui est juste. Son voyage en Hongrie, il replace la France au centre de l'Europe. C'est la première fois qu'un chef d'État s'occupe des pays de l'Est où il veut manifestement disputer la place à Angela Merkel, la chasse gardée de l'Allemagne.
Alors, on va retrouver Louis Tannenberger, Marie-Noëlle Lindemann et Jean-Christophe Adler juste après les marchés, juste après l'essentiel de l'info. Vous restez avec nous sur BFM.
Le Grand Journal, 6 heures d'info éco non-stop sur BFM, Fabrice Lundy.
Voilà, regard sur l'actu du jour avec nos invités toujours en studio pendant une heure. Louis Tannenberger, vous êtes le président d'Europe Finance Industrie. On a vu encore ces files d'attente devant la Northern Rock en Grande-Bretagne, cette banque britannique. La crise des marchés n'est pas encore finie, mais l'économie est solide. C'est Henry Paulson, le secrétaire d'État au Trésor, qui le dit en visite aujourd'hui à Paris aux côtés de Christine Lagarde, laquelle explique que la situation des grandes banques est solide. Vrai, faux ?
C'est tout à fait faux, parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes où ils en sont. Un président d'une grande banque française, à 3 jours d'intervalle, nous a annoncé qu'il avait fermé 3 fonds, puis il les a rouverts.
C'était la BNP, début août, on se souvient de la tourmente financière.
Nous sommes là face à une vaste... À l'époque, nous avions le contrôle du système bancaire, par exemple en 1981, quand François Mitterrand a pris le pouvoir. Aujourd'hui, plus personne.
Ah bah, j'espère que vous ne voulez pas y revenir, Marie-Noëlle Lindemann, au contrôle
plus
des...
personne, mais on ne peut pas payer.
Un tel contrôle,
oui, mais on peut plus payer. Personne n'a arrêter cette spéculation et cette bulle qu'on voyait se gonfler. Quand je pense que la Banque de Chine est pendue pour 15 milliards de dollars avec des subprimes aux États-Unis, tout peut s'écrouler comme un château de cartes ou comme un jeu de domino. Donc, je répète, Nicolas Sarkozy a parfaitement raison de matraquer sur la Banque centrale qui n'a rien vu venir. Je pensais qu'elle était l'organisme suprême. Monsieur Trichet avait les mêmes qualités, beaucoup plus importantes, comme le dit Valéry Giscard d'Estaing pour moi, pour juger. Il y a un an, il devait nous mettre en garde, y compris l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Oui. Voilà.
Giscard qui est venu d'ailleurs féliciter Trichet en pleine polémique avec Nicolas Sarkozy. Jean-Christophe Adler,
inspection des finances.
Jean-Christophe Adler, président de l'Association française des conseils en lobbying.
Oui, je crois que le sujet est un peu le même que celui qu'on évoquait auparavant. L'intervention de Nicolas Sarkozy, on peut en parler sur la forme, mais sur le fond, il faut poser les questions, il faut poser les problèmes, car à nouveau, on est frappé par une espèce de carence de leadership, d'absence de communication. On a des gens qui viennent nous expliquer, des sachants qui viennent nous expliquer qu'on ne sait pas, qu'on ne mesure pas, qu'on ne peut pas savoir, pas encore, c'est trop tôt. Or, on entend quand même quelques économistes audacieux. Patrick Artus dit que le pire est à venir. Il dit que c'est au premier trimestre 2008 qu'on verra la crise produire ses effets à plein. Donc on sait. Donc pourquoi ne pas dire ? Moi, je crois qu'on crée les conditions d'une crise de confiance majeure. On ne réconcilie pas les Français avec l'économie en leur cachant des vérités qui sont sues. Il faut s'engager dans la transparence. Je crois que ça vaut dans tous les domaines, et celui-ci en particulier.
J'ai dit dans ce studio les marchés financiers étaient devenus une vaste raffinerie avec des raffineurs pas toujours très raffinés. Jacques Attali, votre ami, Madame Lindemann, dit très justement, on ne sait plus qui est propriétaire de quoi et qui doit combien à qui. C'est quand même très, très grave.
Alors justement, Marie-Noëlle Lindemann, vous êtes députée européenne socialiste. Jean-Claude Juncker, qui ce week-end s'est quand même félicité d'un certain nombre de réformes annoncées ou engagées sur le marché du travail.
Il est à la tête d'un paradis fiscal.
Oui, le grand-duché de Luxembourg, Louis Tannenberger, laissez-moi parler. Donc il se félicite de certaines réformes qui vont être menées, notamment sur les régimes spéciaux. Et demain, grand discours de Nicolas Sarkozy autour de sa stratégie sociale. Finalement, est-ce que faire les réformes des régimes spéciaux, est-ce que ça va dans le bon sens, Marie-Noëlle Lindemann ?
D'abord, vous observerez qu'on est devant une crise financière considérable. On est devant un vrai problème de croissance en Europe. La seule idée qui vient à tout ce beau monde, c'est de s'attaquer à une toute petite frange du problème des retraites et de cristalliser l'agressivité contre des salariés qui ont ce régime pour des raisons qu'il faut peut-être revoir.
Historique un peu dépassé quand même. Ouais,
mais
ça date de 60 ans.
Qui ne peuvent pas être traités indépendamment de l'ensemble.
Mais vous avez, on les montre pas comme bouc émissaire quand même.
Mais vous n'avez aucune proposition de réforme sur le contrôle des marchés. Vous n'avez aucune proposition de réforme sur la transparence financière. Vous n'avez aucune proposition de réforme sur les stock options qui ne payent pas de cotisations. Aucune proposition de réforme sur les retraites chapeaux. Et alors là, la grande mobilisation, c'est taper les mecs de la SNCF et de l'EDF et les régimes spéciaux. Bon. Donc on voit bien que c'est quand même
C'est vrai que c'est un autre sujet, je suis d'accord, Marine Lehmann, ce sont deux sujets différents, mais est-ce qu'on ne peut pas faire cette réforme? Il aurait fallu, après ce que j'entends chez vous, il aurait fallu gérer d'abord cette crise et ensuite s'occuper des régimes spéciaux.
D'abord la prévoir, l'anticiper.
Je pense qu'il y a une urgence dans les sujets. La première des urgences, c'est premièrement régler cette affaire de crise financière. Deuxièmement, c'est de se donner de la croissance. La question des retraites ne peut pas être contournée. Il faut la voir dans son ensemble. Parce qu'on pourrait regarder très en détail chacun de ces régimes dits spéciaux. Vous avez aussi des taux de cotisation. Vous calculez les annuités. Mais vous savez, par exemple, que les cheminots cotisent en taux de cotisation plus que les salariés du privé. Donc, tout cela mérite qu'on redonne de la cohérence de l'ensemble, Ils cotisent moins longtemps, mais plus en annuité. Chaque annuité, leur taux de participation est plus élevé. Ça n'empêche que le régime est déficitaire, mais le régime des commerçants est aussi déficitaire si vous isolez les commerçants des autres. Donc, regardons l'ensemble. Regardons ce qui est juste pour qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les salariés, mais chacun voit bien que derrière ces régimes spéciaux, c'est une espèce de recul sur les conditions de la retraite globale et aveugle qui s'organise. C'est pour ça que je suis très opposée à cette réforme et je plaide pour une vision nouvelle du calcul des retraites.
Jean-Christophe Adler, président de l'Association française des conseils en lobbying.
Je ne suis pas en complet désaccord avec Marine Lehmann sur le fait qu'il existe d'autres sujets, mais pour autant, je ne crois pas que ça justifie qu'on le reporte au calendrier grec comme on le fait quand même depuis des années. Il a fallu 10 ans pour prendre conscience de l'existence d'un problème. Aujourd'hui, il est là. On peut le résoudre. Il faut le résoudre effectivement de façon globale, mais il faut quand même le résoudre. Ça devient indécent.
Louis Tannenberger.
Nicolas Sarkozy a compris qu'on ne gérait pas une crise, on l'anticipe. Voilà ce qui a fait défaut auprès de la Banque centrale et dans toute l'Europe, et l'Eurogroupe compris. Je n'aime pas quand tous ces grands pontes tentent de nous rassurer. C'est qu'il y a le feu à la maison.
Tiens, autre sujet dans l'actualité du jour, c'est Microsoft. Tiens, vous êtes députée européenne, Marie-Noëlle Lehmann. Bruxelles, la Cour européenne de justice confirme la condamnation faite par la commission de Bruxelles il y a quelque temps de condamner Microsoft à une amende record d'un demi-milliard d'euros et à des mesures coercitives, notamment pour abus de position dominant. C'est une vieille affaire. J'ai l'impression que Microsoft a joué la montre. Ça y est, Microsoft va devoir maintenant respecter la loi. Il était temps.
Oui, mais il était temps, mais d'une certaine façon, on a trop tardé. Parce que le système européen, c'est une prime à celui qui joue la montre et la situation de fait par rapport aux situations de droit. Parce qu'inutile de vous dire que quand vous regarderez tout ce que Microsoft a fait comme bénéfice, a écrasé comme autre initiative et autre opportunité, eh ben, le dégât est fait et maintenant on paye pour réparer le dégât. Alors c'est mieux que si on n'avait pas ces législations, mais moi je demande qu'en Europe, le respect des normes européennes et des règles européennes, un, il n'y ait pas deux poids deux mesures, parce qu'on voit bien dans certains cas où selon que vous serez puissant misérable, on vous matraque ou on attend, et deuxièmement, qu'il y ait des délais qui soient imposés, parce que notamment les États, et on va parler tout à l'heure peut-être des pesticides, notamment
les
États, quand ils ne respectent pas les normes européennes en matière d'environnement, tout le monde joue la montre et c'est 10 ans après qu'on intime l'ordre à tout le monde de se mettre aux normes.
Juste avant les infos de la nuit, Jean-Christophe Adler.
Oui, alors écoutez, je ne sais pas si c'est une situation de fait, je pense que c'est une situation de droit. Il y avait des procédures qui ont été suivies et elles existent. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que finalement, c'est bon pour les consommateurs à l'avenir, puisque la commissaire à la concurrence a expliqué qu'elle placerait dorénavant, la commission placerait l'intérêt des consommateurs devant l'innovation. Donc les consommateurs, voilà un pouvoir important qui leur est reconnu. Et par ailleurs, c'est bon aussi pour la commission, évidemment, qui voit son pouvoir restauré après... quelques affaires.
Moi, je crois qu'il faut faire très attention à cette thèse du consommateur d'abord. Parce que c'est la thèse qui vise, je raconte souvent cette histoire, du temps de Philippe Lebel, eh ben, il y a eu le même débat. Est-ce qu'il fallait accepter que les savetiers se mettent d'accord pour ne pas travailler en dessous d'un certain seuil, ou est-ce qu'on les condamnait à mort quand il y avait entente ? Eh ben, il y avait les financiers qui disaient, ah non, ce qui compte, c'est le consommateur. Parce qu'il va payer moins cher, donc il consommera plus. Et les légistes qui disaient, ah ben non, ce qui compte, c'est que les gens vivent dignement de leur travail. Et donc, ils aient les moyens de consommer. Et on voit bien que la logique du tout consommateur, ça pousse à la délocalisation et ça pousse pas au soutien du producteur. Moi, je défends plutôt les conditions équitables de la production, donc des normes sociales.
Voilà, on va laisser passer les infos de la nuit et puis on va retrouver Marie-Noëlle Lienemann, députée européenne socialiste, auteur de Au revoir Royal. Tiens, Ségolène Royal, on y reviendra également. Jean-Christophe Adler, président de l'Association française des conseils en lobbying, et puis Louis Tenberger, patron d'Europe Finance Industrie. A tout de suite sur BFM.
BFM, 17h23h, le grand journal, Fabrice Lundy.
Un regard sur l'actu du jour, hein. On vient d'aborder la crise des marchés financiers, la condamnation de Microsoft avec tous nos invités ici en studio. Allez, un petit peu de politique quand même avec ces vives critiques de Lionel Jospin contre Ségolène Royal. C'est un livre qui va sortir lundi prochain chez Flammarion, L'Impasse. Voilà, déjà le titre plante le décor. L'ancien Premier ministre cité ce matin par Libération considère que Ségolène Royal, c'était une illusion, c'était la moins capable de gagner. Alors, Marie-Noëlle Lienemann, vous êtes députée européenne socialiste, vous aviez devancé en quelque sorte l'appel il y a trois semaines avec Au revoir Royal que vous avez co-signé avec Philippe Cohen aux éditions Perrin. Vous constatiez que Ségolène Royal manque de densité, elle est incapable d'assumer ses positions. Bon, j'ai l'impression que vous avez été battu, hein, il y va encore plus fort, Jospin, que vous aviez gratigné vous-même, hein, à une époque. Hein.
Oui, non, mais moi mon livre, il avait pour vocation d'expliquer qu'il était temps de fermer un cycle.
Oui.
Ce cycle qui nous a amené quand même trois défaites consécutives. Hein. Et que non seulement moi je faisais des critiques sur Ségolène Royal, mais je me posais la question, comment les socialistes ont désigné Ségolène Royal ? Et là, on ne peut pas s'arrêter simplement sur la personnalité de la candidate. Il y a eu certes l'opération média, il y a eu toute une série de choses. Mais il y a quand même une profonde dépolitisation du PS, un profond décalage avec une partie de son électorat, un manque de travail stratégique sur les nouvelles réponses en fidélité avec nos valeurs. Bref, mon livre... Alors, dans le cas de Lionel Jospin, je pense quand même que son livre ne peut pas se réduire aux critiques véhémentes qu'il a contre Ségolène.
Pour l'instant, il y a juste des citations dans Libération ce matin.
Je pense qu'il est quand même sur un travail de réflexion politique plus fort. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est les réactions de Ségolène Royal.
Ouais, alors, Ségolène Royal, elle est au Québec. Hein, elle est intervenue en fin d'après-midi compte tenu du décalage horaire. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Alors, après Jeanne d'Arc, on a maintenant Jésus-Christ en personne. Hein, parce qu'on se trouve maintenant avec Aimez-vous les uns les autres. La fois dernière, c'était Que les brebis égarées reviennent au vercail. Et maintenant, c'est
Pardonnez-leur. Qu'elles ne savent pas ce qu'ils font.
Non, mais attendez. Soit elle considère qu'elle est au-dessus de ses critiques, elle travaille sur le fond, soit elle y répond, mais on n'est pas dans cette espèce d'incantation religieuse. Alors, j'ai entendu tout à l'heure qu'elle aurait dit que c'était des critiques sexistes. Alors, ça suffit aussi, quoi. Hein. Je pense quand même qu'on peut critiquer une femme sans que, par nature, ça mette en cause sa condition de femme.
Oui, Jean-Christophe Adler, président de l'Association française des conseils en lobbying.
Oui, pour filer la métaphore religieuse, j'ai l'impression que les voies de la reconstruction sont impénétrables au PS. Hein, et quant à Jeanne d'Arc, elles sont assez inaudibles aussi. Ce qui est navrant, c'est qu'on est dans les personnes plutôt que les idées et qu'il est évident que nous sommes tous invités à ce débat interne au PS, mais qu'on préférerait le voir se reconstruire parce qu'on a besoin d'une opposition et de contre-pouvoir.
Voilà, d'un grand parti comme l'a été le Parti Socialiste à une époque. Louis Tenberger, président d'Europe Finance Industrie.
En écho, je dirais qu'il y a beaucoup d'éléphants au PS et un éléphant, ça trompe énormément. je suis surpris. Vous avez un peu quand même la candidate que vous méritez, comme nous avons le président que nous méritons. Et je ne comprends pas, enfin, je ne veux pas me mêler de politique, un grand parti comme le vôtre, avec tant de cerveau, n'est pas réussi à faire extraire de ce parti un leader incontesté, incontestable, comme l'était François Mitterrand.
Ouais, en même temps, est-ce que Lionel Jospin est le plus à même de porter ce type de critique ? On se souvient quand même Jospin qui ne s'était pas qualifié pour le second tour de 2002.
À mon avis,
le PS. Oui, mais en même Marino temps, Lienemann. Ça ne disqualifie pas ad vitam aeternam dans tous les commentaires politiques.
Ah ben, j'espère que non, le pauvre.
Il avait décidé de quitter la vie politique. Moi, personnellement, je considère que son départ et les conditions de sa campagne ont été désastreuses. désastreuse pour nous, collectivement, pour lui sans doute, pour nous collectivement, et que d'une certaine façon, ça a contribué à la crise que nous vivons aujourd'hui avec notamment la désignation de Ségolène Royal. Mais vous avez raison, moi, c'est pourquoi j'ai réagi vite. C'est que j'avais vu déjà comment on était incapable d'aller au bout de nos analyses sur les raisons de notre défaite, et que du coup, les capacités de rebond, fermer la page, pas pour oublier, mais pour en tirer les leçons et construire quelque chose de neuf. Et par exemple, on le voit bien, une crise majeure des alliances politiques. Est-ce qu'on est capable d'inventer une nouvelle étape de l'unité de la gauche, ou est-ce qu'on va faire du raccro politique avec le centre? Chaque fois qu'on a fait ça, ça a été la débâcle. Est-ce qu'on a des choses fortes à dire aujourd'hui, par exemple, par rapport à la financiarisation de l'économie?
On en parlait
tout
à l'heure.
C'est ça qui est maintenant la question centrale.
Louis Tannberger.
Je dis toujours la même chose. La droite, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, mais a fait éclore un homme d'exception, un guerrier que vous n'avez pas à gauche. Vous avez trop réfléchi, perdu trop de temps.
On n'a pas trop réfléchi.
Si, je crois. Et vous êtes neutralisé. Nicolas Sarkozy a littéralement explosé de l'autre côté, dans le bon sens du terme.
Pourquoi il fait ça, à votre avis, Lionel Jospin? C'est quoi? C'est de la rancœur?
Oui.
Il y a peut-être
c'est
de la rancœur.
Louis Tannberger,
mais je pense très franchement qu'il est inquiet sur l'avenir du PS. Je pense qu'il pense qu'on est rentré dans une phase de grande fragilité politique, au sens où les médias décident, l'air du temps prend le pas sur une analyse, le décalage avec nos catégories sociales historiques se creuse et du coup ça nous fragilise. Donc je crois qu'il est réellement et sincèrement inquiet des dérives du Parti Socialiste aujourd'hui. Pour autant, ne surestimons pas non plus son point de vue, parce qu'il n'est plus en situation d'être acteur.
Oui, Louis Tannberger, encore un mot avant les marchés.
Vous avez raté l'économie de marché, ce grand virage, et même une camarade socialiste députée de Paris, je crois, au conseiller municipal, déclare que le PS se droitise. Je ne vois pas où il y a de place aujourd'hui pour un laboratoire social en France. C'est fini, on parle de l'Europe.
La France n'a jamais été autrement qu'en économie de marché. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quelle économie? Comment le marché fonctionne? Comment
on
régule?
On ne peut pas dire que Jospin soit vraiment un soutien de l'économie de marché. Il fait plutôt
Il a tout privatisé. Alors là, au contraire.
Sous la contrainte des marchés.
Je m'excuse, il a privatisé France Télécom.
On le voit bien avec la BCE. Tout ça, c'est mondialisé.
Non, mais ça, c'est Chirac qui a négocié le traité. C'est pas Jospin. Jospin aurait dû résister. Mais le traité d'Amsterdam, c'est le pacte de Dublin. C'est Chirac. Et Jospin a fait une grave erreur d'accepter ce traité.
Il a fait le traité de Nice, Lionel Jospin. Voilà. On se retrouve dans un instant après les marchés. Je le disais toujours avec Jean-Christophe Adler, Louis Tannberger et Marine Linnan. On verra si une catastrophe sanitaire, un désastre sanitaire est en train de se préparer aux Antilles. À tout de suite.
BFM, 17h23h, le grand journal, Fabrice Lundy.
Ouais, regard sur l'actu du jour avec nos invités en studio. Alors donc, on en parle dans l'essentiel de l'info. La Martinique, la Guadeloupe seraient empoisonnées par les pesticides. Voilà ce qu'affirme un cancérologue, Dominique Bellepomme, auteur d'un rapport qui sera rendu public demain. Michel Barnier, le ministre de l'Agriculture, parlait ce matin d'une situation très grave. Roselyne Bachelot, son homologue de la santé, appelle plutôt ce soir à la prudence. Jean-Christophe Adler, vous êtes président de l'Association française des conseils en lobbying. Alors, faut-il craindre justement un tel désastre sanitaire sur les Antilles françaises?
Je ne peux pas vous répondre naturellement sur faut-il le craindre, est-ce qu'il faut le redouter apparemment, mais moi ce que je voudrais dire c'est que à nouveau, comme sur les différents sujets, je crois que ça pose un problème de gouvernance, de transparence, de communication. La semaine dernière à l'Académie des sciences, il y a un rapport qui a établi que les cancers répondaient à peu de causes environnementales. Et cette semaine, demain, on va nous expliquer que les Antilles sont peut-être à la veille d'une catastrophe sanitaire pire que l'affaire du sang contaminé. Et où donc ces territoires qui ont été meurtris par des ouragans vont maintenant voir leur population mutilée par l'utilisation non raisonnée, c'est le moins qu'on puisse dire, de produits chimiques par ailleurs interdits, semble-t-il, en métropole. Donc on est vraiment en marche sur la tête, on s'interroge sur la manière de laquelle ça fonctionne dans des secteurs aussi régulés que la santé et que l'agriculture, qui sont encore possibles qu'aujourd'hui on découvre qu'il existe un problème de santé publique majeur. avec encore une fois le record mondial, semble-t-il, le deuxième rang pour les Antilles de cancer de la prostate. Et donc, il n'y a pas d'indicateurs qui ont permis de voir ça avant. C'est vraiment tout à fait scandaleux.
Oui, Marie-Noëlle Lienemann, vous êtes députée européenne socialiste. On n'a pas assez bien anticipé, justement, en France, ce type de catastrophe.
En France, il faut bien être honnête, pas génial non plus dans beaucoup de pays. Hein. Mais en attendant, c'est totalement inacceptable. D'abord, je voudrais dire que le professeur Bilpom est un expert reconnu et qui est souvent consulté par les instances européennes. Donc son rapport, c'est pas, faut pas le sous-estimer. Il y a certainement beaucoup de choses tout à fait justes. Reste que nous ne nous sommes pas donné des outils pour qu'on soit sûr aujourd'hui qu'une fois que l'alerte, qui est déjà trop tardive, a lieu, l'information pluraliste, contradictoire et des analyses précises vont être faites. Et je crains l'étouffoir. Et je crains même que la leçon de l'amiante n'ait pas été tirée.
Oui, c'est-à-dire, vous parlez de l'amiante, Jean-Christophe parlait du sang contaminé. C'est vrai que ce sont deux catastrophes précédentes. Là aussi, qu'on aurait pu éviter.
Absolument. Et en tout cas, dans le cas de l'amiante, dès qu'on a su le danger, on n'a pas pris les mesures. Deuxièmement, il est inacceptable que certains produits soient autorisés dans les dom-toms et ne soient pas autorisés.
Ça fait deux poids, deux mesures. Ça fait des sous-hommes.
Il a dû trouver une raison technique sur la température. Ouais, mais absolument inacceptable. Ouais. Et troisièmement, j'attire l'attention du fait que la France ne s'est pas dotée d'un outil performant pour préparer la législation REACH.
Alors, REACH, on le rappelle, c'est cette directive européenne qui maintenant contraint les industriels de la chimie à prouver que leurs produits ne sont pas nocifs. Hein, c'est-à-dire que c'est aux industriels eux-mêmes de dire voilà ce que je propose en peinture, etc.
On était un des pays en pointe sur la toxicologie, c'est-à-dire le lien entre les produits chimiques et les dangers pour la santé. On n'a pas formé de toxicologues. Il y a une urgence absolue de les former. On a encore les meilleurs toxicologues, sauf qu'ils commencent à être âgés. Donc vitesse grand V, il faut les former, il faut des aides publiques pour accompagner les PME, pour faire ce travail de diagnostic, de préparation. Et ce n'est pas la peine d'avoir mis dans la Constitution le principe de précaution pour être aussi peu attentif à travers l'action publique à le mettre en œuvre.
Jean-Christophe Adler, président de l'Association française des conseils en lobbying.
Oui, précisément, en tant que lobbyiste et praticien des institutions, je voudrais dire qu'au moment où on s'interroge sur les moyens de renforcer le rôle du Parlement en tant que contre-pouvoir, je crois qu'il y a là un exemple évident de terrain à explorer. Le contrôle du Parlement doit être renforcé, et notamment en aval du vote des lois, par des systèmes d'évaluation de l'application des lois. On en parlait avec Marie-Noëlle Lienemann. Il est vraisemblable qu'on aurait découvert en la matière que une législation européenne existait et que, évidemment, on n'aurait pas pu tolérer ce système de deux poids, deux mesures. Donc, dans tous les cas, je crois qu'il est vraiment urgent de renforcer le rôle du Parlement, qui est plus de transparence, plus de publicité et un contrôle dans l'application des lois votées.
Et Louis Tannberger, président d'Europe Finance Industrie.
C'est un peu le même sujet que la crise financière, pas de vague, consensus mou, on y mouline et une catastrophe arrive et on la gère. Non, on l'anticipe.
Marie-Noëlle Lienemann.
Oui, mais pour anticiper, effectivement, il faut des outils publics performants. Il faut mobiliser aussi l'opinion publique et les scientifiques de ce pays. Je trouve qu'on ne fait pas assez appel au diagnostic de nos scientifiques dans le monde politique et dans la société.
Et pourquoi, à votre avis ?
Sans doute par une espèce de peur d'affronter les difficultés du temps. Alors que le progrès, notamment je pense à l'industrie chimique puisqu'on en parle, si on anticipe les évolutions et si on investit dans la recherche, on peut même prendre de l'avance par rapport à certains pays. Mais on a perdu cette logique de la politique industrielle, de la planification au sens noble du terme et de la volonté aussi.
Excusez-moi madame, on en revient toujours au même. Je suis pour l'économie de marché. On est dans la dictature des marchés. On ne peut pas, le temps passe, mais tout vient un tout petit peu, même beaucoup, de la mondialisation et de cette dictature dont on parle, la dictature de l'argent.
Je fais partie du Grenelle environnement et je le dis tout net. S'il n'y a pas un travail secteur par secteur, sujet par sujet, d'évaluation systématique des risques, de l'état de la situation, une observation contradictoire, ce que nous vivons là risque de se répéter. En tout cas, il faut le traiter maintenant rapidement.
Voilà, bonne soirée Marie-Noëlle Lienemann, députée européenne socialiste, auteur, je le rappelle, hein, toujours en vente en attendant le livre de Jospin la semaine prochaine. Au revoir
en
Royal.
Vous pouvez lire les deux.
Oui, avec Philippe Cohen aux éditions Perrin. Merci Louis Tannberger, président d'Europe Finance Industrie. On aura le plaisir de vous retrouver très bientôt sur BFM. Bonne soirée aussi, bon retour à Jean-Christophe Adler, président de l'Association française des conseils en lobbying. Nous, on se retrouve dans un instant avec les marchés, l'essentiel de l'info, puis un prochain journal de l'écho. À tout de suite.